14h, la France bouge. Raphaël Duchemin.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1. Ma mission chaque jour, vous montrer l'actualité sous un autre jour en vous donnant des solutions et en vous faisant aussi découvrir ceux et celles qui les inventent, qui imaginent pour nous le monde de demain. Gros plan aujourd'hui sur race de cœur et génétique, une biscuiterie artisanale qui débute et une plateforme pour mesurer l'ADN éthique des entreprises. Vont-ils convaincre nos experts? Réponse dans quelques minutes dans la France Bouge Academy. Elle veut être le Vinted, peut-être des produits électroniques. Elozac, en tout cas, est la solution pour leur donner une nouvelle vie. Rendez-vous avec Elisabeth Assayag pour découvrir comment. Quelle est votre consommation de pain au quotidien? 39-21, dites-nous si elle a évolué, car Europe 1 se tient en ce moment et la boulangerie est en plein renouveau. Elle n'échappe pas, vous le verrez, au tournant de l'innovation. Et puis, elle existe depuis 1892, mais des bouchons de liège naturels sur les vins effervescents, Oller et compagnie, et l'entreprise qui va bien, c'est ça la France qui bouge, et c'est sur Europe 1.
Europe 1.
Bienvenue dans la France Bouge Academy. Si vous le savez, vous pouvez pousser la porte de notre studio pour venir défendre votre projet. Si vous avez besoin de conseils, si vous souhaitez savoir si vous êtes sur la bonne voie, eh bien, on vous attend. Venez, il suffit pour ça, Céline, de nous écrire.
Oui, vous nous envoyez un mail à l'adresse suivante e1-lafrancebouge@europe1.fr.
Et ensuite, eh bien, une équipe vous attendra ici dans les studios d'Europe 1 pour vous challenger. Elisabeth Assayag est là comme chaque jour. Bonjour Elisabeth.
Bonjour Raphaël et bonjour à toutes et à tous.
Nos experts sont là aussi, fidèles au poste, fidèles au rendez-vous. Mickaël Selam est avec nous. Bonjour Mickaël.
Bonjour Raphaël.
Pour Iris Finance, dirigeant d'Iris Finance, société de gestion de portefeuille indépendante, à vos côtés, on retrouve notre coach Guillaume Kérou. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Fondateur de Didaxis, président du Club des Entrepreneurs. Je vous présente Anne-Sophie de Gabory. Bonjour Anne-Sophie.
Bonjour Raphaël.
Vous avez 33 ans et vous êtes la fondatrice d'As de Cœur. Depuis septembre, vous commercialisez vos biscuits artisanaux, bio et co-responsables. Il vous a fallu 9 mois pour trouver la toute première recette. Et c'est, je crois, en pensant à vos enfants que vous êtes lancé dans ce projet. Alors, vous allez nous expliquer comment il a démarré et surtout où vous en êtes. Vous avez 1 minute 30. Pour tout nous dire.
Alors effectivement, l'année dernière, j'ai décidé de créer la biscuiterie As de Cœur, qui propose une gamme de biscuits bio aux apports nutritionnels optimisés. Alors pourquoi je me suis lancée dans cette aventure? Effectivement, d'abord parce que de formation, voilà, je suis ingénieure en biochimie, donc ça m'a permis aussi de comprendre les étiquettes nutritionnelles et notamment celle des biscuits que j'ai pu étudier et qui était assez alarmante. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on consomme à peu près 2 fois plus de sucre que les quantités recommandées par l'OMS. Et en plus, malheureusement, parfois sans le savoir, parce que les sucres sont partout et souvent bien cachés. Après, c'est aussi effectivement ma vie de maman qui m'a donné envie d'entreprendre et d'inventer des recettes gourmande et intéressante nutritionnellement. Et c'est pour ça que je me suis entourée de chefs et de médecins pour valider nos recettes d'un point de vue gourmand et d'un point de vue nutritionnel.
Donc vous avez lancé en septembre 2018 les premiers cookies.
Alors septembre 2018, on a commencé les premières recettes. 2019, on a fait la première commercialisation. Alors aujourd'hui, du coup, As de Cœur propose deux offres. Donc des biscuits bio, gourmands, réduits en sucre. Qui sont sans conservateurs, sans additifs évidemment, qu'on propose aux particuliers et aux professionnels pour tout ce qui était petit déjeuner, formation, réunion. Mais on a aussi créé un programme de prévention qui est composé de projets pédagogiques qui sont concrets et adaptés aux enfants pour en parler dans les écoles et les sensibiliser à ce sujet-là.
Alors, on va voir tout de suite ce qu'en pensent nos experts et quelles sont les questions qu'ils ont à vous poser. Mickaël, Guillaume, on vous écoute. Qui a envie de commencer? Mickaël?
Est-ce que vous avez fait préalablement une étude de marché par rapport à ce secteur qui, effectivement, on peut le voir au fil des émissions, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont intéressés pour la création de produits bio et de produits vegan également. Donc on est quand même dans un schéma de marché qui est bien travaillé. Est-ce que vous avez vu votre place au sein de ce marché?
Alors oui, on a fait une étude de marché et on a vu notre place notamment sur le côté optimisé. C'est qu'effectivement aujourd'hui, il y a des biscuits bio, il y a des biscuits effectivement vegan, sans gluten. Après, nous, notre conviction, c'est que chaque ingrédient a sa place, a des valeurs nutritionnelles intéressantes. Et c'est aussi comme ça qu'on les a choisis. pour optimiser l'apport nutritionnel des biscuits et faire en fait de la pause gourmande quelque chose qui était quand même intéressant et surtout pas trop sucré. Parce que même dans le sans gluten ou dans le bio, ça ne garantit pas une quantité de sucre idéale. Voilà.
Alors moi, attention, parce que moi, je fais attention à ce que je mange, à ma santé, etc. J'ai testé plein de produits bio, sans sucre, avec, etc. Globalement, le goût, pas terrible.
Ah bon, on va goûter
souvent, ça sert à rien.
De gourmandise.
Et ouais, la question est, est-ce qu'on peut aujourd'hui avoir des bons produits et qui soient aussi accessibles pour le consommateur? Parce que les produits pas très bons, pas très goûteux que j'ai testés étaient quand même très chers, voire le double du prix d'un biscuit traditionnel.
Alors c'est vrai que du coup
on va faire circuler la boîte
voilà,
pour que tout le monde goûte.
Effectivement, goûter, c'est le meilleur moyen de d'avoir un avis sur la question. Mais effectivement, ça a un prix. Après, pour nous, c'est ce qui nous semble être le prix juste. C'est vrai que les matières premières, le choix de nos matières premières était important. Après, on s'aligne quand même sur des prix au kilo qui sont, par exemple, sur d'autres marques très connues.
J'achète. Voilà.
Ah, merci Guillaume.
Bon.
Moi aussi, ils sont très bons.
Ouais.
Je valide. Hein.
Ouais, c'est le cookies au chocolat, c'est le premier hein, que vous
Donc
avez lancé.
Donc ça, c'est la première recette qui a été développée.
Parfait.
Voilà. Merci
bon,
Guillaume. Contente de vous avoir.
Pour l'instant, vous êtes en autofinancement.
Oui.
Et comment est-ce que vous voyez évoluer les choses, justement?
Alors oui, effectivement. Donc pour le moment, on est en autofinancement. Après, ça fait partie des points qu'on va creuser en 2020 sur est-ce qu'on se rapproche d'investisseurs ou pas. Donc là, on en rencontre aussi. Voilà, donc affaire à suivre à ce niveau-là.
Mickaël,
quels seraient vos besoins en termes de capitaux? Alors vous avez également fait un business plan par rapport à l'avenir. C'est quoi vos besoins
sûr,
pour optimiser le marché? Parce que compte tenu de la production que vous avez, qui est encore artisanale, est-ce que vous avez une capacité de produire des quantités importantes ou pas? Est-ce que c'est l'outil que vous devez développer pour produire plus, ou c'est développer à travers un réseau commercial de distribution qui va susciter et nécessiter le plus de moyens?
Alors nous, notre objectif, la premier de la recherche de fonds, ça va être de pouvoir embaucher en septembre l'année prochaine. Alors là, en parallèle, en production, donc nous, on produit nous-mêmes toutes les semaines dans notre atelier à Lyon. Donc voilà, j'y suis toutes les semaines.
Avec de la production, avec des matières premières locales.
Hein. Avec des matières premières locales, donc quand on est dans la région de Lyon, après c'est vrai que ça...
Les œufs, la farine, le beurre qui viennent de la région.
Ouais. Exactement. Après, là, cette semaine, par exemple, on a fait des tests. Donc aujourd'hui, on fait nos biscuits à la main. Donc on fait chaque boule à la main et on les façonne un par un à la main. Donc là, cette semaine, on a fait des tests sur des machines qui nous permettraient de faire les boules. Et après, nous, on les finirait à la main. Donc il y a la gestion de la pâte quand même dans la machine. Mais là-dessus, on augmente quand même notre capacité de production.
Guillaume, c'est vrai qu'un bon produit, ça ne suffit pas. Il faut aujourd'hui, pour être reconnu du public, il faut un bon marketing. Est-ce que c'est un sujet que vous avez appréhendé et où vous en êtes?
Alors, vous avez une communauté déjà?
Alors, on est en train de la créer. Après, là, on a surtout développé pour les professionnels, parce que ça nous a permis de commencer plus rapidement, parce qu'en fait, on était beaucoup moins réglementé aussi sur la partie professionnelle, parce qu'on livre en vrac, on sait que c'est consommé dans la journée. Donc voilà, donc on a surtout développé notre réseau de professionnels, donc on travaille avec des conciergeries et des entreprises. Et là, on est un peu entre deux pour le particulier, parce que du coup, ils peuvent commander sur notre site internet. On est en cours de certification bio, une fois qu'on le saura, on pourra être en rayon en magasin bio spécialisé, qui ont déjà dégusté et qui sont déjà convaincus par nos produits, et des épiceries fines. Pour avoir, mais on attend la production de nos boîtes en fer, voilà, qui est en train d'arriver.
Boîtes en fer et emballage zéro plastique.
Et emballage
zéro
plastique.
Avec du carton recyclé.
Pas d'allergène, rien.
Alors, il y a des fruits à coque.
Ah bon, ça.
Fruits à coque. Cookies chocolat, noisettes, craquelin, chocolat noir, macarons amandes nature, macarons amandes miel, pour l'instant en tout cas, ça c'est l'essentiel de votre gamme, et plus évidemment à venir. C'est tout le mal qu'on vous souhaite pour As de cœur. Merci beaucoup. Vous
Merci
nous donnerez
beaucoup.
De vos nouvelles sur Europe 1.
Il est midi 39.
Europe 1.
Et si on faisait passer un test ADN aux entreprises pour mesurer leur éthique? C'est ce que propose notre candidat suivant. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1.
La France. Rouge Academy, c'est votre rendez-vous. Si vous êtes jeune entrepreneur, que vous souhaitez nous parler de votre projet, rejoignez-nous sur Europe 1, nous écrivons, nous envoyons un mail. L'adresse est la suivante, e1-lafrancebouge@europe1.fr. Raphaël. Et ensuite, eh bien, la porte du studio d'Europe 1 s'ouvrira et vous serez avec nous ici dans la France Bouge Academy, comme l'est aujourd'hui Léo Astorino. Bonjour Léo.
Bonjour Raphaël.
Vous avez 25 ans et vous êtes le fondateur de Génétique. Alors ça s'écrit G-E-N apostrophe éthique plus loin, E-T-H-I-C. Votre concept, c'est aller voir, aller regarder l'ADN des entreprises et mesurer leur sens éthique, justement. Vous proposez une grille de lecture qui permet finalement au grand public de connaître leur engagement. Comment est-ce que vous avez conçu votre plateforme et surtout, où en êtes-vous? On vous écoute, vous avez 1 minute 30.
Alors en effet, Génétique est le premier test ADN pour entreprises. Donc concrètement, une plateforme digitale qui permet aux entreprises qui jouent le jeu de la transparence de dévoiler leur ADN, à savoir l'ensemble de leurs informations en matière de politique écologique, sociale, économique. On n'est pas un label, on n'est pas là pour dire qui est gentil, qui est méchant, on est là pour promouvoir la transparence en matière d'éthique. C'est important. Le constat de départ, c'est qu'aujourd'hui, personne ne le nie, je pense que ça ne fait plus débat, il y a une urgence climatique et sociale. Les gens sont conscients que les entreprises ont un rôle crucial à jouer dans la résolution de cette crise. Alors les jeunes cherchent des entreprises éthiques, on l'a vu avec le manifeste étudiant pour un réveil écologique. Les financeurs insèrent de plus en plus des clauses sociales et environnementales dans les appels d'offres. Les consommateurs consomment de manière plus responsable. Paradoxalement, les entreprises ont beaucoup de mal à valoriser leur engagement. C'était un petit peu le sens de la loi Pacte. Comment est-ce qu'on fait pour lutter contre cette défiance du public? Certaines entreprises donc, utilisent beaucoup, usent du greenwashing. Et nous, on est convaincus chez Génétique que dans 5 ans, ça ne marchera plus. Les gens ne sont pas dupes, le consommateur s'éduque. Et de l'autre côté, il y a des entreprises qui font des choses exceptionnelles, mais elles ont du mal à le faire savoir. Comment est-ce qu'on se positionne? Finalement, nous, c'est proposer quelque chose qui soit plus transparent qu'un label, qui ne soit pas juste quelque chose de cosmétique, mais qui en même temps soit aussi beaucoup plus lisible, c'est très important, qu'un rapport RSE. Faut savoir que ces rapports sont obligatoires pour certaines entreprises et qui font souvent plus de 80 pages. Voilà. Donc comment ça marche? Les entreprises répondent à un questionnaire en ligne, on fait vérifier les informations par des auditeurs indépendants, et en cas de validation, les entreprises peuvent afficher leur ADN, qui leur est personnel, sur leur site web, sur notre plateforme, sur des plateformes de recrutement partenaires. L'idée, c'est que l'ADN devienne le nouveau format en matière de communication responsable.
Alors, l'ADN, justement, vous y croyez à cette plateforme? Vous pensez que ça va devenir obligatoire? Michael, Guillaume, qu'est-ce que vous en dites?
On observe qu'effectivement, il y a une vraie tendance vers l'éthique. Aujourd'hui, on le voit au sein des produits financés déjà, on a des différentes classifications et l'éthique est fondamentale par rapport à la sélection des valeurs. En revanche, le fait de se couper d'un label, c'est dommage parce que le marché est là, parce qu'une entreprise qui a besoin en termes de marketing d'annoncer qu'elle est éthico-responsable, ça va être quand même une entreprise qui va investir dedans et il lui faut une reconnaissance, un label qui soit réellement et objectivement incontestable. Mais comment vous est venue cette idée, à part le fait qu'on est dans une vague éthique et qu'aujourd'hui ça correspond à un marché? Moi, si je suis jeune, à 25 ans, je me lançais dans l'éthique. Est-ce que vous avez une sensibilité par rapport à ça? Vous avez été peut-être, entre guillemets, maltraité en entreprise?
J'ai pas eu le temps parce que c'est ma première expérience professionnelle. Non, je pense que ça vient d'une vocation un petit peu personnelle. Je pense que c'est des sujets qui m'intéressent depuis longtemps. Et le constat, justement, c'était que les labels, aujourd'hui, suscitent pas mal de défiance, finalement, côté grand public. Les gens se posent pas mal de fois les questions. L'entreprise paye pour un label, c'est un petit peu simple. Ça. Nous, ce qu'on promeut, c'est de la transparence. C'est-à-dire, on n'est pas là pour dire là, vous êtes bien, là, vous êtes mauvais. On est là pour donner accès rapidement à de l'information. Le public doit accéder en 2 clics maximum à des informations qui orientent ses choix maintenant. C'est notre objectif.
Effectivement, il y a un engouement des consommateurs pour ce type d'application. On le voit dans les produits alimentaires, produits de santé. Il y a une application, je ne sais pas si on peut citer là, qui a quand même plus de 11 millions d'utilisateurs.
Je pense que c'est Yuka.
Plus qu'un label, effectivement, c'est une reconnaissance du public, c'est sûrement ce que vous visez. Alors moi, la question par rapport à ça, c'est en France, on a 4,5 millions d'entreprises. 96% de ces entreprises sont des micro-entreprises. Donc, à un moment donné, comment cette application-là peut être adaptée à ce monde qui change? Et ce monde qui change, on le voit, va de plus en plus vers de la micro-activité où chacun va pouvoir se créer son activité. Parce que finalement, votre label, il va être bien pour certaines grandes entreprises, mais elles sont aujourd'hui très peu nombreuses en France.
Comment on fait avec la grille de lecture qui ne peut pas être la même pour une PME, une ETI ou une TPE?
Alors, le modèle d'évaluation prend en compte les spécificités liées à la taille, au secteur d'activité et au statut, donc économie sociale et solidaire, économie classique. On est conscient qu'il y a beaucoup de petites entreprises, beaucoup de TPE, beaucoup de micro-entrepreneurs de plus en plus, c'est une tendance de fond. Maintenant, l'outil s'adresse principalement aux PME et ETI, qui sont quand même un nombre conséquent, avec aussi l'envie de proposer des outils clés en main pour les entreprises qui n'ont pas forcément de responsable développement durable, qui n'ont pas de directeur RSE, comme les grands groupes. Donc on veut vraiment aussi les aider à s'améliorer grâce à un outil clé en main et qui ne leur coûte pas des dizaines de milliers d'euros en agence de communication.
Avec un exemple concret, une question à laquelle les entreprises doivent répondre?
Alors il y a une 150aine de critères qui varient en fonction des variables que je vous ai précitées. Ça peut être le pourcentage de personnes en réinsertion, ça peut être le taux de mixité homme-femme, le bilan carbone de l'entreprise, les écarts de salaire entre le plus haut et le plus bas salaire. On essaie de passer au crible toutes les informations, tout ce qui fait l'ADN d'une entreprise, au même titre que chaque être humain a un patrimoine génétique. On veut faire la même chose pour une entreprise.
Justement, par rapport à ça, on parlait des appels d'offres. Donc aujourd'hui, quasiment tous les appels d'offres demandent effectivement sa notation à travers certains de vos concurrents. Donc, il y a des applications
dans les appels
qui
existent concurrents.
Comment vous démarchez justement de vos concurrents? Parce qu'on en connaît un certain nombre.
Tout à fait. Alors, pour le public, on est à 6% de clauses sociales et environnementales sur l'ensemble des marchés publics, ce qui est extrêmement peu, finalement, compte tenu de l'urgence. Nous, on espère qu'on va aller vers du beaucoup plus. En revanche, oui, en effet, il y a un certain nombre de notations qu'on appelle extra-financières sur l'aspect éthique. La seule différence avec toutes ces agences existantes, c'est qu'on est les seuls à être open data, c'est-à-dire totalement accessible au public. Toutes les autres sont confidentielles et c'est les fonds d'investissement ou les financeurs qui payent.
Vraiment à destination du grand public.
Mais c'est par ça qu'il faut commencer.
C'est à destination de tout le monde, les financeurs, les collectivités. En fait, ce qu'on pense, c'est que l'éthique, c'est un sujet qui a commencé à intéresser l'investissement. C'est le premier segment qui a vraiment marché avec la notation. Nous, ce qu'on veut, c'est la démocratiser. Et on pense que en la rendant totalement transparente, un jour, peut-être que les investisseurs pourront eux aussi se passer d'autres
agences. Peut-être le modèle économique, du coup, enfin une seconde.
Tout à fait. C'est une notation sollicitée. Donc, c'est les entreprises qui font le choix de la transparence qui viennent nous voir et on les note, on les évalue.
Merci beaucoup.
Et vous en avez 12, 13 pour l'instant et 40 qui arrivent. Merci beaucoup,
merci
Léo.
Merci beaucoup.
Pour Génétique, vous nous donnerez évidemment de vos nouvelles. Mickaël Selam est avec nous aujourd'hui pour la France Bouge Académie et pour Iris Finance.
Il est midi 49.
Europe 1.
Ouvrez vos placards, il reste des téléphones dans vos tiroirs et si vous leur donniez une nouvelle vie, c'est ce que propose la solution Elozac avec Elisabeth Assayag.